Et on commence par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À grand renfort de fumigènes, de tambours et de sifflets, entre 300 000 et 500 000 personnes ont manifesté hier partout en France à l'appel des syndicats de fonctionnaires et de cheminots. Mobilisation réussie pour la CGT notamment, qui appelle à une nouvelle journée d'action le 19 avril prochain.
Nicolas Sarkozy contre-attaque et promet de faire triompher son honneur. Invité du 20h de TF1 hier, quelles zones d'ombre subsistent ? Analyse dans ce journal.
À la une également, les Européens exemptés de taxes sur l'acier et l'aluminium aux États-Unis. Donald Trump l'a annoncé hier, les Européens restent prudents. Et puis la Catalogne n'a toujours pas de président. La livraison aujourd'hui du plus grand paquebot de croisière du monde au chantier STX de Saint-Nazaire, le Symphony of the Seas. Pourquoi cette course au gigantisme et pour quelle retombée commerciale ? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puisque vous avez parlé de paquebot, eh bien Facebook prend-il l'eau, Catherine ? Ça sera la question du jour et on la posera à la journaliste Amaëlle Guiton dans un quart d'heure.
Pas question de laisser la mobilisation s'essouffler. Au lendemain des manifestations de cheminots et de fonctionnaires partout en France, la CGT appelle désormais à une nouvelle journée d'action nationale le 19 avril prochain. Une mobilisation interprofessionnelle, précise le syndicat, qui a compté hier 500 000 manifestants, quand le ministère de l'Intérieur évoque, lui, le chiffre de 323 000 personnes dans la rue. Des comptes indépendants réalisés à Paris par le cabinet Occurrence, choisis par plusieurs médias, dont France Culture, 47 800 manifestants dans le cortège de la fonction publique et celui des cheminots qui se sont rejoints place de la Bastille. Une mobilisation réussie pour les syndicats ferroviaires notamment. Ils y voient un premier avertissement contre le gouvernement, Bénédicte Robin.
Ce cortège dense qui remonte vers la Bastille, c'est la première étape.
Pour montrer au gouvernement un effet de masse et cet effet de nombre, faire voir qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas contents.
Comme une démonstration des forces en présence pour Eric, technicien de maintenance, qui n'a toujours pas digéré la décision du gouvernement de légiférer par ordonnance.
Ça veut dire que quoi qu'il advienne, quoi qu'on dira, apparemment tout est déjà fait. Donc ça va être dur de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils revoient leur copie.
Dure aussi la réponse, cette grève marathon prévue à partir d'avril, 2 jours sur 5, pendant 3 mois, mais légitime.
Et l'enjeu, c'est faire en sorte que dans les années qui viennent, il y a encore dans ce pays un service public ferroviaire.
Yvan est venu de Narbonne pour prévenir, dit-il, les usagers des dangers de la réforme.
Ah ben, si la réforme passe en l'état, il n'y aura plus moyen de prendre le train dans ce pays. Si l'état se désengage sur les petites lignes, les régions ne pourront pas les entretenir. Il y a des milliers de voyageurs quotidiens qui ne pourront plus prendre le train, tout simplement.
Mais vous ne pensez pas devenir impopulaire, que les usagers n'apprécient pas ?
Ben, les usagers, si certains jours ils n'ont pas de train, ça sera pour qu'ils en aient dans les années qui viennent.
Et c'est bien ce débat que Jonathan voudrait ouvrir.
Qu'on puisse avoir de vraies négociations et qu'on se pose la vraie question de qu'est-ce qu'on met en place comme service public pour les usagers, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit au niveau ferroviaire et ainsi de suite. Le débat, il est là, mais qu'on ouvre le débat, on a des propositions, mais qu'on négocie.
Des vraies négociations et non pas celles auxquelles le gouvernement répète qu'il est toujours ouvert.
Et c'est derrière une banderole unitaire pour la fonction publique, les salaires, l'emploi et le statut que les 7 syndicats de fonctionnaires ont défilé hier à Paris, dénonçant des conditions de travail dégradées, le gel de leur point d'indice, l'annonce d'un plan de départ volontaire et le recours accru à des contractuels. Les fonctionnaires ont témoigné de leurs problèmes au quotidien, comme Romain, professeur de collège depuis 3 ans à Bobigny, en Seine-Saint-Denis.
Dans la pratique aujourd'hui, c'est très simple. On a des effectifs qui augmentent. Moi, dans mon collège, on va avoir 3 classes de plus qui vont être ouvertes sans moyens supplémentaires pour pouvoir les abonder. On a par exemple un dispositif, moi, dans mon collège, qui aide à l'inclusion des élèves non francophones qui va disparaître. Et visiblement, le ministère pense que c'est mieux de prendre les élèves qui ne parlent pas français et de les mettre dans des classes entourées que de français. On ne va leur parler qu'en français pour qu'ils apprennent le français. Le problème, c'est quand on ne comprend pas une consigne, eh ben, on ne peut de toute façon pas la suivre. Et on voit déjà des situations d'isolement de plus en plus marquées et qui vont se traduire par un mal-être de plus en plus visible et de plus en plus puissant des élèves, sans parler bien sûr de tout le personnel humain qui encadre ces gamins. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais il n'y a pas d'adultes dans un établissement, s'il y a des caméras, des tablettes, comment est-ce que ça peut permettre à quelqu'un de comprendre quelles sont les règles de la vie en société, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on peut interagir avec les autres? Et je crois que c'est actuellement notre gros problème, c'est qu'on manque de personnes. On a de moins en moins de personnes, nos collèges deviennent vides, ils sont fermés à des horaires extrêmement prématurés, ils sont plus intégrés dans les quartiers, ça devient des forteresses imprenables et les écoles c'est pareil. Il faut faire des pieds et des mains pour demander des réunions, des moments où on peut essayer de se concerter et apparemment c'est toujours trop demandé. Ce qu'on nous répond c'est vous êtes surdotés. Et dans la Macronie c'est des tas de sourires. Ah oui bien sûr, évidemment, oui c'est terrible, mais vous n'aurez rien.
Romain, professeur de collège en Seine-Saint-Denis, au micro d'Annabelle Grelier, dans le cortège parisien qui comptait, je le rappelle, 47 800 manifestants selon un cabinet indépendant. Pour éviter les polémiques, des médias font compter les manifestants. C'est un dossier à retrouver sur franceculture.fr. Après les cheminots et les fonctionnaires hier, c'est au tour des personnels d'Air France de manifester leur mécontentement. Aujourd'hui, 11 syndicats, tous métiers confondus, appellent à faire grève pour obtenir une hausse de 6% de leur salaire et rattraper, selon eux, la perte de pouvoir d'achat subie depuis la dernière augmentation générale. C'était en 2011, 6% demandé par cette intersyndicale quand la direction d'Air France propose 1%. Un quart des vols de la compagnie aérienne devraient être annulés aujourd'hui.
Vous écoutez les matins de France Culture. Il est 7h06, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Il s'est vigoureusement défendu hier soir aux 20h de TF1 contre ce qu'il appelle l'ignominie de la bande de Kadhafi et de Mediapart.
Le regard noir et la mâchoire serrée, Nicolas Sarkozy a promis de faire triompher son honneur au lendemain de sa mise en examen pour des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.
Je pose une question devant les Français. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre preuve, le moindre document? Et il se trouve qu'on met un ancien président de la République, c'est la France, c'est la fonction qui est en cause, au même niveau qu'une bande d'assassins et d'escrocs condamnés pour cela. Monsieur Boulot, quand même, on est dans un état de droit, on ne peut pas se comporter comme ça. Alors je vous dis une chose, j'ai pas l'intention de plaisanter avec ça. Je prends les choses très au sérieux, beaucoup plus que vous l'imaginez. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais je pourfendrai cette bande, je ferai triompher mon honneur et je n'ai pas l'intention de céder 1 centimètre de terrain à cette bande.
Nicolas Sarkozy aux 20h de TF1 hier soir, mis en examen avant-hier, je le rappelle, pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale pour la présidentielle de 2007. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Nicolas Sarkozy a donc livré sa défense hier, mais des zones d'ombre subsistent, Camille.
Oui, ça devait être l'un des moments forts de cette défense. Sur le plateau du 20h, Nicolas Sarkozy brandit un extrait de rapport policier. Il estime à ce rapport qu'il y a de fortes probabilités pour que le document Mediapart soit un faux. Cette note officielle libyenne datée de 2006, c'est elle qui indique noir sur blanc la somme de 50 millions d'euros débloquée par la Libye pour financer la campagne de 2007. Or, la justice française a par 2 fois tranché sur la question de son authenticité. Rien ne permet de dire que le document serait falsifié. Mais ça, Nicolas Sarkozy a omis de le rappeler hier soir. Sur les attaques outrées contre feu Muammar Kadhafi et ses sbires, quand l'ex-président affirme qu'il est celui qui a fait tomber le guide libyen avec la guerre de 2011, il oublie également de rappeler que 4 ans plus tôt, il était surtout celui qui lui déroulait le tapis rouge à Paris pour 5 jours de visite officielle, particulièrement embarrassante pour la France, avec la volonté affichée à l'époque de faire revenir M. Kadhafi sur la scène internationale. Nicolas Sarkozy conteste aussi la moralité d'un de ses accusateurs libyens, Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi. Ce dernier, c'est vrai, a été condamné en France à la perpétuité pour l'attentat du DC-10 d'Utea et ses 170 morts, en 1989. Mais ce que Nicolas Sarkozy n'a pas dit hier soir, c'est qu'en contrepartie des millions libyens qui auraient été versés pour sa campagne en 2007, il se serait engagé à faire lever cette peine contre Senoussi. Il s'y est d'ailleurs employé une fois à l'Elysée, des documents en attestent. Enfin, cette information débusquée par nos confrères du site d'info BuzzFeed, Nicolas Sarkozy était bien à Paris le 26 janvier 2007 au matin. C'est important car il n'a donc pas dit toute la vérité. Hier soir, il affirmait qu'il n'avait pas pu recevoir de valise de billets libyens des mains de Ziad Takieddine parce qu'il n'était pas à Paris autour du 27 janvier. La démonstration, donc, on le voit, ne tient pas.
Camille Magnard, merci pour toutes ces précisions. Les 28 restent prudents face aux États-Unis. Hier, Donald Trump a décidé de suspendre jusqu'au 1er mai des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis de plusieurs partenaires importants, dont l'Union européenne. Washington met toutes ses forces désormais dans la bataille commerciale contre la Chine. Inquiétude des bourses asiatiques notamment. On y revient dans le journal de 7h30. L'Asie et la Corée du Sud qui s'inquiètent par ailleurs de la nomination de John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Cette figure radicale de la diplomatie américaine, des chefs de file, des faucons unilatéralistes au sein des républicains, va remplacer H.R. McMaster et cela pourrait compliquer les préparatifs d'un possible sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen. En Catalogne, pour la première fois, les indépendantistes majoritaires au Parlement régional ont tenté d'investir un nouveau président pour la troisième fois après Carles Puigdemont, le président destitué puis recalé parce qu'exilé en Belgique. Après également Jordi Sanchez, incapable de se rendre à la Chambre parce qu'il se trouve en prison. Hier, c'était le tour de Jordi Turull, le reportage de Mathieu de Taillac.
Trois mois et un jour après l'élection du Parlement catalan, les indépendantistes majoritaires à la Chambre se décidaient enfin à désigner un candidat ni exilé en Belgique, ni placé en détention provisoire. Résultat, après 5 heures de débat, le président de l'Assemblée rend compte du vote. 64 votes oui,
65 votes non,
65 votes non et 4 abstentions.
Abstentions.
Jordi Turull est recalé, la faute à la division des indépendantistes et à ses 4 abstentions qui proviennent du plus petit des 3 partis sécessionnistes, la coupe d'extrême gauche. Son porte-parole, Carles Riera, expliquait ainsi le refus de son groupe. Vous nous proposez d'obéir à l'État, vous nous proposez d'obéir à la Cour constitutionnelle, à la légalité constitutionnelle et aux lois catalanes. Vous nous dites qu'en faisant des politiques régionales, un jour nous pourrons revenir à la République. Nous ne pouvons pas assumer ce projet, nous ne pouvons pas assumer ce programme. Résultat, Turull devra se soumettre à un second vote samedi, à condition bien sûr qu'il n'ait pas été placé en prison préventive d'ici là. La Cour suprême a la possibilité de prendre cette mesure. Elle l'a convoqué ce matin avec 5 autres responsables indépendantistes.
Un casse-tête politique en Italie à présent. Les 2 chambres du Parlement, privées de majorité absolue depuis les élections du 4 mars, se réunissent aujourd'hui pour élire chacune son président sur fond d'incertitude quant au futur gouvernement italien. La poubelle du Pacifique fait 3 fois la taille de la France. Cet immense magma de plastique qui flotte entre Hawaï et la Californie fait aujourd'hui 1 600 000 km². C'est ce que révèle une étude publiée hier dans la revue Scientific Reports, et c'est beaucoup plus qu'estimé précédemment, notamment parce que la pollution continue d'augmenter.